Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Discool Paris de l'École des Ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking.
Pour notre quatrième saison, nous aborderons des thématiques autour des expertises en innovation et design explorées par la Discool Paris. Nous vous proposons donc de nouveaux intervenants autour d'univers différents comme le design thinking, le design fiction et le design soutenable. Et qui, j'espère, vous inspireront autant que nous. Bonne écoute.
Bien, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Mostafa Elouani du groupe Michelin, avec qui on travaille régulièrement. On est ravis de t'avoir aujourd'hui, Mostafa, avec nous. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord qui es-tu, Mostafa ?
Bonjour, Fabien. Bah, tout d'abord, merci. Merci pour l'invitation. Alors, vaste question, qui es-tu ? Jamais évident hein, de parler de soi-même. Bon, en synthèse, hein, effectivement, tu as évoqué que je fais partie du groupe Michelin. Bon, j'ai eu une vie avant Michelin, donc diplômé de l'ENSI, l'ENSI des ateliers à Paris en 2006. Ensuite, une dizaine d'années dans diverses agences de design. Et effectivement, donc, j'ai intégré et rejoint le groupe Michelin en 2014. Où mes quatre premières années, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les équipes R&D, où pendant quatre ans, j'ai contribué sur divers chantiers de design pneus, et particulièrement sur le projet Vision, qui a pour but de partager la vision long terme du groupe, et qui se matérialise par un concept pneu alvéolaire bleu, d'ailleurs, la couleur est importante. Donc, penser de manière durable en termes de matériaux, bande de roulement, qui est rechargeable, sans air et sans besoin de gonflage. Donc, vraiment le chantier qui a marqué mes 4 ans à la R&D. Et ensuite, 4 années à la direction du progrès, où j'étais garant pour le groupe Michelin des approches d'innovation et de créativité. Et donc, période durant laquelle j'ai collaboré avec l'équipe de la Discool, la Discool de l'École des Ponts, avec comme objectif de structurer ensemble un parcours de formation au design thinking à destination des équipes Michelin. Et aujourd'hui, pour finir le curriculum vitae, depuis janvier 2023, je suis design manager de l'équipe expérience utilisateur, ou UX, à la direction du digital et des systèmes d'info.
Très bien. Alors écoute, peut-être première question pour rebondir. Tu l'as dit, tu es designer. Et tu as commencé ta carrière plutôt chez Michelin sur du produit, quelque part. Et puis, plutôt, tu as la direction du progrès, donc quelque part peut-être du service ou du numérique. Donc, on voit qu'il y a un petit changement. Donc, c'est vrai que nous, école d'ingénieurs, nous aussi l'école des ponts. Moi, je me pose un peu la question de la place du design dans une grande entreprise industrielle comme Michelin et peut-être cette articulation qu'on peut voir entre la culture design et la culture ingénieur. Comment ça se passe et cette place du designer? Quelle est-elle au sein d'un grand groupe comme Michelin ?
Excellente question. Et je pense qu'on pourrait en parler des heures. Bon, on va essayer d'aller vite hein, dans le cadre de ce podcast. Dans le cas du groupe Michelin, je dirais que la place du design est historique. Dans le sens où le premier grand succès commercial du groupe, qui est le pneu démontable, 1891, est né d'un travail d'observation et de co-construction avec l'utilisateur. Ou le user, pour reprendre les termes plus actuels, suite à la crevaison d'un cycliste du côté de Clermont-Ferrand. Et quand on prend connaissance en fait, de ce cas clé dans l'histoire du groupe, on est sur une pure application des principes du design thinking, hein, cher à la Discool, avant l'heure. Et pour le coup, j'ai eu l'occasion d'en discuter dans le cadre des formations donné par la Discool chez Michelin, mais je ne désespère pas qu'un jour vous intégriez ce cas dans vos tablettes, dans vos formations. Bon, après, dans un contexte plus actuel, on va retrouver des designers dans les différentes branches de l'entreprise aujourd'hui, hein, telles que la R&D, telles que c'est cité précédemment, les systèmes d'information, les services et solutions, la direction de l'innovation. Et désolé pour les branches de l'entreprise que j'oublie, que je ne cite pas. Mais aujourd'hui, tout cumulé, on parle de centaines de personnes couvrant les différents champs du design, comme tu disais, du produit au numérique. Et par exemple, aujourd'hui, dans la branche à laquelle j'appartiens, on recense 63 designers, allant de la recherche utilisateur jusqu'à la conception au design d'interface. Alors effectivement, par rapport à ta question, et j'entends aussi hein, souvent dire que Michelin est une boîte d'ingénieurs, et c'est très juste, ne serait-ce que de par le fait que le groupe compte un grand nombre d'ingénieurs de talent. Les métiers du design ne sont pas toujours bien connus dans cet environnement. Et pour le coup, les designers ont encore un challenge de diffusion et de vulgarisation de leurs pratiques, afin de faciliter la collaboration avec les différents corps de métier, dont l'un d'entre eux, effectivement, est lié au monde de l'ingénieur, mais pas que. Donc, l'articulation designer-ingénieur se passe généralement bien dès lors que, de mon point de vue, hein, les rôles et responsabilités de chacun sont bien définis et que le management soutient de manière équilibrée et équitable cette relation. Et d'ailleurs, en parlant d'équilibre, hein, j'accorde une grande importance au fait que dans un processus de co-conception, c'est toujours en fait une histoire d'équipe, hein, quand il s'agit de concevoir quelque chose de nouveau, il y a un équilibre dans l'importance que l'on donne aux différentes fonctions représentées autour de la table. Et je tiens donc au fait que le designer soit bien autour de la table, et donc ni au centre de toutes les attentions, ni en isolement dans un coin de la salle. Donc une des forces, je dirais une des forces du design aujourd'hui réside dans sa capacité à osciller entre le micro et le macro, entre le stratégique et l'opérationnel. Ce qui fait que dans une organisation telle que Michelin aujourd'hui, les designers vont le matin contribuer à des enjeux de transformation du groupe, à des enjeux organisationnels, et puis l'après-midi se poser la question du bon rayon de congé. Est-ce que c'est plutôt 0,5 mm, 1 mm? Et on oscille en permanence entre ces deux formes d'extrême, choses très, très macro, et d'autres beaucoup plus micro, mais on a besoin des deux et c'est... C'est une des forces, je trouve, de ce métier.
D'accord, merci, c'est très clair. Peut-être, je reviens, tu parlais du rôle et des responsabilités. Alors, j'entends, tu l'as un petit peu décrit. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi la place des designers dans les processus d'innovation au sein de Michelin?
Alors, les processus d'innovation sont multiples, en fait. Hein. L'innovation est partout. On a besoin de créer de la valeur nouvelle. Dans certains processus, les designers sont impliqués, dans d'autres, non. Dans certains cas, pour de bonnes raisons. Dans d'autres, peut-être parce que on n'a pas encore testé. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le rôle du designer dans le processus d'innovation renvoie à cette oscillation. Hein. Un designer peut très bien jouer un rôle de méthode, d'animation de ce processus, en aidant l'équipe dans laquelle il s'intègre à co-construire avec l'utilisateur. Tout comme il peut jouer un rôle plus métier, dans le sens métier-cœur, et contribuer à produire un des lots du chantier. Mais effectivement, on va retrouver ces deux dimensions de contribution individuelle, soit sous forme de production d'éléments, on parle souvent d'assets, hein, production d'assets, ou d'animation de la démarche. Et ça s'inscrit bien d'ailleurs avec les enseignements, les préceptes qui nous sont transmis par la Discool.
Ok, super. Alors peut-être juste pour revenir sur ton parcours aussi, c'est vrai que tu as eu donc du produit, des processus, et aujourd'hui tu es plutôt au service de l'IT et de user experience et de l'UI. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu en fait, de ton métier aujourd'hui au sein de Michelin?
Alors d'abord, en fait, bon, c'est un choix personnel, mais j'ai jamais souhaité me spécialiser dans un des champs du design. Toujours souhaité être dans la transversalité et dans le fait de me dire, bon, on a besoin aussi de maillons qui lient les maillons de la chaîne Et c'est ce qui m'a toujours attiré dans ce métier-là. Et effectivement, c'est ce qui ressort de mes quelques années d'expérience. Effectivement, produits, méthodes, digital. Et effectivement, aujourd'hui, je suis dans le monde de l'IT et je suis un petit nouveau dans ce monde. Mais j'apprends tous les jours. Et en même temps, c'est un retour aux sources, car ça me renvoie à mes premiers amours. Alors, quand je dis premiers amours, en fait, j'ai fait partie durant mes études de l'ADN, alors l'atelier de design numérique, donc 2002-2003, donc qui à l'époque avait été créé hein, et encadré par Jean-Louis Fréchin à l'ENSI, où j'ai découvert et appris les fondamentaux du design numérique, les différents outils, le code, le design graphique. Et là, on est sur une époque, effectivement, on ne parlait pas encore du UX, comme on en entend énormément parler aujourd'hui en France. Et encore une fois, en 2002, le smartphone n'existait pas. Mais à l'époque, du coup, on se posait la question par rapport aux différents médias de ce temps-là. Hein, donc, on parlait encore beaucoup de CD-ROM, également de...
De multimédia.
De multimédia, merci. De scénographie aussi, parce que le champ du numérique ne se résume pas qu'à l'écran, mais également aux interactions du corps dans l'espace. Donc, une période très stimulante. Et qui m'a donné envie d'avoir aussi dans mon carquois cette dimension liée au design numérique. Voilà, sachant qu'aujourd'hui dans l'équipe que j'encadre, l'enjeu est double. Donc l'équipe UX au sein de la direction du digital et des systèmes d'info fait elle-même partie d'un programme de transformation qui d'ailleurs s'appelle Everblue, visant à améliorer la qualité de l'expérience client. Et l'expérience utilisateur en est un des piliers. Et donc dans ce cadre-là, notre équipe a deux enjeux clés. Le premier enjeu est de contribuer à l'amélioration de l'expérience digitale de nos utilisateurs, de nos users. Et nos users sont multiples. Donc, trouver des clients B2B ou B2C du groupe Michelin, ainsi que les employés. Donc, les employés sont pour nous un client important. Et dans son ADN, Michelin est attaché à ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Un équilibre, encore une fois, j'ai parlé d'équilibre précédemment, mais l'équilibre entre le client et l'employé et nos contributions en tant que designer numérique contribuent à cette symétrie. Et on a un deuxième enjeu, un enjeu de diffusion en fait, et d'autonomisation des équipes sur leurs pratiques, leur état d'esprit centré utilisateur. Et ça s'inscrit pleinement hein, dans une des grandes orientations du groupe d'anglicisme, mais on parle de customer centricity. Et c'est une des grandes orientations du groupe Michelin. Et là aussi, on tente au quotidien de contribuer d'apporter notre pierre à cet édifice.
OK, alors c'est que sur ce deuxième axe dont tu parles, c'est là où je vois qu'on a le plus de liens, entre guillemets, entre la discoule de l'École des Ponts et des Michelin, puisque quelque part, on organise pas mal de formations avec vous sur, là aussi, ces pratiques de design. Pourquoi quelque part on s'est rencontrés et à un moment donné il y a eu un besoin en fait de former des personnes chez vous qui sont pas des designers quelque part à acquérir un peu une culture design, en tout cas des réflexes en fait qui viennent du design?
Alors si ma mémoire est bonne, j'ai rencontré l'équipe de la Discool pour la première fois en 2017. Et c'était dans le cadre... Alors, je participais à une formation autour des fondamentaux du design thinking. J'étais élève. Et à l'époque, d'ailleurs, la connexion s'était faite du côté des équipes Progrès Michelin qui s'intéressaient au design thinking et qui, de fil en aiguille, avait rencontré l'équipe de la D-School de l'époque et avait organisé une série de modules. Donc, j'ai eu la chance d'y participer avec des collègues Michelin de divers horizons. Et c'est un des intérêts de l'approche, hein, c'est de pouvoir mettre autour de la table des personnes issues de différents domaines, différents mondes, et de tenter de trouver un langage commun. Un langage commun qui permette d'avancer ensemble vers un objectif, un but commun. Et ensuite, 2017, c'est ça. Et ensuite, j'ai recroisé l'équipe de la D-School un peu plus intensément entre 2019 et 2022. Car j'ai moi-même rejoint les équipes Progrès, parce qu'à l'époque j'étais à la R&D, et pour le coup, là, moi j'avais comme enjeu de mettre à disposition des employés du groupe un parcours structuré de formation au design thinking. Et étant donné que le contact avait été établi par mes prédécesseurs, je me suis dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et du coup, on a continué notre collaboration avec comme objectif, pour le coup, d'aller au-delà d'un simple module et de proposer une série de modules permettant de monter en compétences suivant différents niveaux. Et fondamentalement, le pourquoi dans ta question, Fabien, un des grands enjeux de ce parcours est de contribuer à diffuser et développer une culture forte d'innovation chez Michelin, suivant différents axes, à l'aide de différents leviers, et le design thinking et la collaboration avec la D-School en faisaient et en font toujours d'ailleurs partie. Donc, 2019, 2022, le parcours continue d'attirer des personnes. Donc, tu connais peut-être les chiffres mieux que moi, mais on a plus d'une centaine d'employés formés aujourd'hui aux quatre coins de Michelin. Pas qu'en France, et toujours avec un haut niveau de satisfaction de la part des employés formés. Et pour ça, j'en profite pour vous remercier l'équipe de la D-School.
Bah écoute, on va être très sincère, mais nous, c'est toujours un plaisir de venir travailler. Chaque fois, mes collègues disent, mais quand on va chez les Michelin, c'est toujours des gens très sympas. Donc, on aime beaucoup venir en fait chez vous. C'est vrai que pour nous, c'est pas que c'est étonnant, mais quand on a discuté un peu avec les différentes personnes qui s'occupent de la formation chez vous, chez Michelin, dans votre dictionnaire des compétences, il y a la compétence, alors à l'école, on n'appellera peut-être pas ça une compétence, mais la compétence design thinking, vous avez plusieurs niveaux, et on voit effectivement que c'est une pratique qui est importante au sein des Michelin. Ça, c'est vraiment, on trouve que c'est très intéressant. Alors, tu en as un petit peu parlé, hein, ça s'inscrit dans des pratiques d'innovation, ça s'inscrit peut-être aussi dans la transformation numérique des entreprises, dont on parle, il y a toujours plusieurs piliers. Un des piliers, c'est vrai que c'est aussi de créer une nouvelle forme de travail, de relations dans les équipes organisationnelles. Pour toi, c'est quoi un petit peu, tu en as un petit peu parlé, mais l'impact en fait que cette pratique du design thinking au sein de Michelin peut avoir?
Ah, bonne question. Donc là, effectivement, on a parlé de diffusion, d'une culture d'innovation, et c'est quelque chose de difficile à atteindre, la dimension culturelle, parce qu'elle ne s'achète pas. Et un des leviers, c'est la pratique, c'est la mise en pratique, et qu'au travers de cette mise en pratique, moyennant le fait de donner des clés aux personnes, telles que la formation, on puisse tendre vers cet objectif d'une culture d'innovation forte. Et un des intérêts qu'on a trouvé dans cette relation avec la D-School est lié au fait, hein, j'en ai brièvement parlé, c'est qu'elle permet de mettre en place un langage commun entre les différentes personnes autour de la table. Parce que l'innovation, fondamentalement, c'est, de mon point de vue, encore une fois, une histoire, une affaire d'équipe. Et en l'occurrence, d'équipe multidisciplinaire, multiculturelle. Et la question du langage devient clé, hein, du fait d'avoir une diversité autour de la table. La diversité étant, d'ailleurs, un des éléments ou un des leviers qui nous aide à la créativité et potentiellement à innover. Mais se pose souvent cette question du OK, on vient de différents mondes, à potentiellement différentes attentes, potentiellement différents outils. Et en ça, le travail mené par l'équipe de la Discool et les personnes formées chez Michelin permet de mettre en place, d'instaurer un langage commun qui en plus est incontestable dans le sens où le but du jeu, c'est de tenter d'améliorer le quotidien de nos clients, de nos utilisateurs. Et ça, je n'ai pas encore croisé quelqu'un qui s'y oppose et ça facilite en fait, hein, ça facilite cette volonté commune qu'ont les différents acteurs d'un projet, d'un chantier, d'améliorer le quotidien d'une population donnée.
Merci pour cette réponse. C'est vrai que nous aussi, puisqu'on, quelque part, on n'est pas pareil, mais je veux dire, nous, on a une équipe de designers aussi, ou des gens très, comment dire, proches du design, en fait, au sein de l'école d'ingénieurs, et ça nous permet d'avoir un langage, en fait, ceux qui sont venus se former parmi nous, comme tu le dis, un langage, un vocabulaire commun qui nous permet de travailler en venant de différents métiers, différentes compétences, connaissances très multidisciplinaires, et d'arriver à travailler ensemble. Écoute, merci pour cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter un peu? C'est une interview voilà, un petit peu courte, une vingtaine de minutes, on y est. Mais peut-être je peux te laisser la parole si tu as des choses à rajouter qui te paraissent importantes sur ces sujets d'innovation, de design ou de design en général.
Alors, j'aurais tendance simplement à réitérer mes remerciements à destination de l'équipe de la Discool et de continuer à nous accompagner, particulièrement à nous accompagner sur les questions environnementales et de transmettre des clés en lien avec cet enjeu, ce challenge. Et je sais que l'équipe de la Discool planche sur ce sujet. Sur lequel on est preneur de vos pratiques, de vos enseignements pour améliorer cette dimension clé.
Ok, ben merci. Ben en tout cas, on est très contents de pouvoir aussi mener des formations un peu nouvelles avec vous sur des sujets. Tu le sais sans doute, mais c'est que l'école des ponts, une école d'ingénieurs, mais avec le ministère des tutelles, qui est le ministère de la transition écologique. Avec aussi beaucoup d'étudiants jeunes qui challengent un peu, quelque part, les enseignements d'ingénieurs. C'est quoi être ingénieur au XXIe siècle dans un monde fini où on rentre en tension, en fait, souvent avec les limites planétaires. Donc, c'est que ces sujets sont au cœur aussi de nos pratiques aujourd'hui. Et on est très content de pouvoir avancer là-dessus avec vous, qui est un grand groupe industriel, et que ça puisse résonner. Donc, on est ravis de travailler avec vous là-dessus.
Très bien, merci. Merci Fabien.
Bah, écoute, merci à toi pour cet échange. Encore une fois, on est ravis toujours de notre participation à vos formations. On vient d'ici pas longtemps, dans 2 semaines on sera là. Toujours un plaisir de venir chez vous.
Eh bien, un grand plaisir, un plaisir de nous recroiser dans les couloirs de notre centre de formation.
Et à très
vite. Merci.
Merci.